c'est plus comme parce que quand on a commencé la Royal Air dans les années 90, il y avait une sorte de boom, effectivement, il y avait un élan, boom, c'est un peu idiot de dire, mais il y avait un élan certain en faveur de la Pino. Et puis il est vrai que maintenant, cet élan, il s'est un peu calmé, quoi. Mais il y a quand même une vitalité.
Quand même, ouais. Il y a peut-être un petit, je sais pas, j'ai l'impression que ça va quand même. C'est pas quelque chose qui est mort.
C'est pas encore mort, hein. C'est...
Bon, alors on est déjà 17, c'est pas mal. Je peux peut-être. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la séance tranquillement et puis les gens arrivent.
Je coupe ma caméra.
Ça marche, ok. Alors, on va commencer comme ça. Je vais ouvrir. Alors, du coup, bienvenue à tout le monde. Je vais rapidement donc ouvrir la séance. C'est la troisième séance du séminaire de philosophie de Rouen. Et l'échange sera enregistré par Alexis Delamarre, avec qui je co-organise donc le séminaire. Voilà, je pense que je l'ai déjà dit, mais en gros, il faudra que seuls les intervenants un peu et Mathieu se mettent en vidéo. Sinon, ça pourrait peut-être encombrer la bande passante. Donc voilà. Et puis après, si vous préférez ne pas parler, vous pouvez poser aussi votre question sur le chat pendant la discussion. Donc, ça, c'était pour le bon déroulement de la séance. Ce que je voulais dire aussi au nom des organisateurs, donc de moi et de Alexis Delamarre, c'est qu'on est heureux, évidemment, de pouvoir tenir les séances pendant la crise sanitaire, mais que quand même, dès que le contexte le permettra, on essaiera de revenir à des séances en présence sur le campus de Rouen. Donc, nous vous tiendrons informés, évidemment, à l'avance si les choses évoluent. Dès aujourd'hui, là, je peux vous annoncer que la quatrième séance du séminaire, comme indiqué sur l'affiche, aura lieu le 11 mars, à distance, semble-t-il encore. Et on aura le plaisir de recevoir Iris Douzan, qui est une doctorante aussi de Paris 1, et qui interviendra et nous éclairera sur l'expérience et la conscience pré-réflexive chez Hume et Rousseau. Donc voilà pour un peu la prochaine séance. Et pour l'heure, donc, c'est avec une grande joie qu'on accueille donc Mathieu Echenier. Grande joie parce qu'en toute fin d'année dernière, il a soutenu avec Paris 1 une impressionnante thèse intitulée « Le cœur du Dasein, la déconstruction heideggerienne de la personne chrétienne et médiévale ». Et donc, il a réalisé cette thèse sous la direction de Jean-Baptiste Brenet et Alain de Libera. À côté de cela, cette année, Mathieu est à terre à l'Université de Bourgogne de Dijon. Donc, il continue toute une activité de professorat. Et puis, aujourd'hui, on va l'écouter sur le thème, sur un thème en lien avec son travail de doctorat, qui s'intitule « Être est avoir, sur l'avoir Dieu heideggerien ». Alors, je vais céder la parole à Mathieu, mais auparavant, donc, je tenais quand même à remercier chaleureusement Philippe Calestan, qui a eu la gentillesse de bien vouloir se joindre à nous pour se faire le discutant principal de cette séance. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Philippe Calestan, c'est un professeur de philosophie en classe préparatoire au lycée Jean Sonseil à Paris. Il est aussi président de l'école française de Dasein Analyse. Et il faut donc essayer d'être un peu plus précis, disons que c'est un passeur assez connu. Il a organisé plusieurs ouvrages d'introduction à la phénoménologie. Et puis c'est aussi un chercheur en phénoménologie et en psychiatrie phénoménologique. Pour le dire vite, il contribue annuellement donc à la revue de phénoménologie Alter, hein, et il fait d'ailleurs même partie du comité de rédaction de la revue depuis de nombreuses années maintenant. Et puis, c'est un spécialiste de Sartre. D'ailleurs, assez récemment, vous pouvez trouver chez Vrin son ouvrage « La philosophie de Sartre ». Et puis enfin, c'est un connaisseur de Heidegger. Donc, pour toutes ces raisons, nous mesurons la chance de l'avoir comme répondant pour cette séance autour de Heidegger. Et comme on se connaît un petit peu avec Philippe, je peux témoigner que c'est toujours un plaisir d'échanger avec lui et qu'il sera donc toujours le bienvenu s'il veut revenir participer au séminaire de philosophie de Rouen. Donc, les présentations sont faites. Donc, cher Mathieu, je te laisse la parole.
Merci. Alors, merci beaucoup, évidemment, pour ton invitation, Aurélien. Ça fait vraiment extrêmement plaisir de pouvoir participer à ce séminaire. Merci beaucoup aussi également à Philippe Calestan pour sa présence et sa réponse, à vrai dire. Alors, à plusieurs reprises dans Être et Temps, Heidegger présente l'existence propre du Dasein comme, il dit, une existence nue. Je cite en particulier deux passages, mais il y en aurait d'autres, j'en cite deux. D'abord, page 218. Alors, je me référerai toujours à la traduction d'Être et Temps par Emmanuel Martineau. Je modifierai parfois un petit peu la traduction, mais en tout cas, je donnerai la pagination de la traduction française par Emmanuel Martineau. Donc, je cite en premier passage, page 218. « L'appelant n'est mondainement déterminable par rien en son qui, in seinem Wer. Il est le Dasein en son étrangèreté, in seiner Unheimlichkeit, l'être au monde originellement jeté en tant qu'hors de chez lui, als un Zuhause, le que, das, nu, nackt, dans le rien du monde, im nichts der Welt. » Je cite aussi page 263, où il y a encore cette nudité. L'angoisse s'angoisse pour le Dasein nu, nackt, en tant que jeté dans l'étrangèreté, Unheimlichkeit. Elle reporte au pur que, das pour das, de l'être jeté et scellé le plus propre. Dans la tonalité de l'angoisse, le Dasein est complètement repris en son étrangèreté nue, nackt, Unheimlichkeit, et pris par celle-ci. Fin de citation. Dans la tonalité de l'angoisse, Angst, les étangs intramondains disparaissent au sens où ils perdent toute significativité. Bedeutsamkeit. Seul demeure, entre guillemets, le Dasein, donc nu. Alors, quel sens faut-il donner à une telle image, la nudité? C'est cette question que je voudrais étudier aujourd'hui. La question qui se pose est la suivante. Heidegger envisage-t-il le mouvement vers l'être en propre? Alors, par être en propre, je traduis Eigentlichkeit. Donc, Heidegger envisage-t-il le mouvement vers l'être en propre comme un processus, on peut dire, donc, de dépouillement, voire de purification? Le Dasein, on le sait, est caractérisé par l'avoir, et j'y reviendrai. Il est l'étant qui sait lui-même, plus précisément, il est appelé par la conscience. Alors, conscience, c'est Gewissen. Traditionnellement, Gewissen, c'est la conscience morale, ici avec des guillemets. Donc, le Dasein est appelé par la conscience à avoir la possibilité qui lui est la plus propre. La question devient dès lors, savoir soi-même en propre signifie-t-il se dépouiller jusqu'à la nudité? Plus exactement, si le Dasein qui sait lui-même ça en tant qu'être au monde, quel type de rapport entretient-il alors, quand il sait en propre, avec les étangs intramondains? Le Dasein qui existe en propre continue-t-il véritablement à les avoir? Ou doit-on concevoir l'avoir soi-même comme un processus de dépouillement au sens strict, et partant le Dasein qui existe d'une manière propre, comme un Dasein proprement nu? Alors, je répondrai à cette dernière question par la négative. Et pour justifier cette réponse, il me faudra analyser dans le détail le sens de l'avoir soi-même heideggerien. Et pour ce faire, je prendrai pour fil conducteur les concepts d'exis en grec et d'habitus en latin. Alors pourquoi choisir ces deux concepts? D'une part parce que ces notions, j'y reviendrai, sont intimement liées à la thématique de l'avoir, haben. D'autre part parce que au paragraphe 60 d'Être et Temps, Heidegger semble nous indiquer lui-même que l'avoir soi-même ne prend pas la forme d'un dépouillement au sens strict, et le fait donc en mobilisant le concept d'habitus. Il écrit ainsi au paragraphe 60, c'est page 234, il écrit que la résolution, Entschlossenheit, dans laquelle s'accomplit l'avoir soi-même, le sich selbst haben, il écrit que cette résolution, je cite, ne saurait être en aucune manière confondue avec un habitus, vide, leere. Fin de citation. Alors, je procéderai en deux temps. Je voudrais montrer que le sens proprement heideggerien de l'avoir soi-même peut être éclairé par la notion aristotélicienne, d'exis pour une part, par le concept augustinien d'habitus pour une autre part. Il s'agira de montrer à chaque fois que le Dasein, donc, qui s'allume n'est pas stricto sensu un Dasein nu, autrement dit que le Dasein qui seul même ne cesse absolument pas d'avoir des états intramondains, qu'il ne rompt pas absolument avec. Alors, le Dasein qui ça en propre, je l'ai dit, est celui qui se résout, c'est-à-dire en fait qui se projette dans l'avenir. La seule projection de soi ne suffit pas toutefois à caractériser l'Eigentlichkeit, l'être en propre du Dasein. Celui-ci n'est pas seulement un projet, il est plus précisément, dit Heidegger, un projet jeté. L'existence, la projection de soi qui caractérise le Dasein est donc doublée de facticité. Et si Heidegger octroie dans être et temps une forme de primauté à la première, à la projection, et à travers elle à l'avenir sur le passé propre, ce qu'on appelle l'être été du Dasein, donc si Heidegger octroie dans être et temps une forme de primauté à la projection, cette projection et la facticité n'en constituent pas moins des moments co-originaires du souci, de l'être du Dasein. La projection heideggerienne de soi a donc le sens d'une reprise, on peut dire d'une retenue. L'appropriation de soi, l'avoir soi-même, est toujours à comprendre comme une réappropriation. Je ne me projette véritablement vers celui que je suis, vers ma possibilité la plus propre, qu'à la condition que cette projection ne se mue pas en une perte oublieuse de soi, une perte qui prend la forme dans le mouvement de l'échéance, Verfallen, d'une identification, d'une assimilation aux états intramondants. Alors, pour comprendre le sens de l'avoir soi-même, c'est-à-dire de l'ayance heideggerienne, il nous faut dans un premier temps faire retour, donc j'ai annoncé, à Aristote. En 1927, date de publication des traités, l'appropriation de soi au sens heideggerien possède un sens éminemment aristotélicien. Aristote permet précisément de comprendre en quel sens savoir en propre signifie pour Heidegger se projeter tout en se retenant. Alors, quel sens faut-il donner pour commencer à la retenue que j'ai évoquée? Le motif heideggerien de la retenue du Dasein consiste pour partie en une réappropriation de la notion aristotélicienne d'exis. Exis qu'on traduit couramment par état. Heidegger développe une analyse détaillée du concept d'exis dans les concepts fondamentaux de la philosophie aristotélicienne, dans le cours du semestre d'été 1924. Il le fait plus exactement au paragraphe 17. Le concept d'exis renvoie immédiatement à la thématique de l'avoir. En grec, en effet, la notion d'avoir, ekein et d'exis sont intimement liées. Ce que la traduction courante d'exis, d'ailleurs, par état, tend à faire oublier. Le terme d'exis dérive étymologiquement de l'écaille, l'avoir. Et littéralement, l'exis signifie le fait d'avoir. La parenté de ces deux notions, l'exis et l'avoir, apparaît un peu plus clairement dans la première définition qu'Aristote donne de l'exis au livre Delta de la métaphysique. C'est en 1022b4, je cite, exis se dit en un sens, par exemple d'un acte, energia, entre celui qui a, ekontos, et ce qu'il a, comme une action, praxis, ou un mouvement. Fin de citation. En quel sens, précisément, peut-on dire que le Dasein, aristotélo-heideggerien, on peut dire, s'a-t-il? La réappropriation heideggerienne de l'exis aristotélicienne semble viser un sens particulier de l'écueil, de l'avoir. Alors, quel sens? L'avoir, précisément, au sens du retenir, du tenir, ou encore, on peut dire, du réunir, du tenir assemblé. Ce sens de l'avoir correspond au quatrième sens mentionné par Aristote, une nouvelle fois, au livre Delta de la métaphysique. Alors, je cite un passage où il explicite quel est donc ce quatrième sens de l'avoir, celui, à mon sens, que Heidegger reprend à son compte. Donc, c'est dans la métaphysique 1023 à 17. De ce qui empêche quelque chose de se mouvoir ou d'agir selon sa propre impulsion, on dit qu'il le tient. Et là, c'est par exemple, les colonnes tiennent les corps lourds posés sur elles, comme Atlas à qui les poètes font tenir le ciel, comme s'il allait tomber sur la terre, ainsi que l'affirment aussi certains physiologues. En ce sens aussi, on dit que ce qui tient assemblé, contient les choses qu'il tient à assembler, parce que chacune d'elles se séparait selon sa propre impulsion. Fin de citation. À partir de cette définition de la voix, de ce quatrième sens de la voix, Heidegger comprend l'exis aristotélicienne dans le cours du semestre d'été 1924 comme la capacité du Dasein à se retenir. Et qu'est-ce que ça veut dire ici, se retenir? Ça veut dire s'empêcher de fuir devant lui-même, devant son être en propre, pour se disperser dans le monde. Heidegger comprend l'exis comme une forme de sotéria. Sotéria, ça veut dire salut. Il la comprend comme une forme de sotéria, le Dasein qui se retient, se sauve, au sens où il échappe à la corruption, au recouvrement de l'être impropre, à l'œuvre dans l'existence échue, dans l'existence impropre. Je cite un passage donc, du cours du semestre d'été 1924, c'est le tome 18 des œuvres complètes de Heidegger, je cite page 262, « Sauver, retten, dans le sens de ne pas laisser périr, nicht umkommen lassen, maintenir dans le Dasein, im Dasein erhalten. » Donc sauver, soteria, le salut, concept contraire à la phtora, c'est-à-dire la corruption, la destruction, au disparaître hors du Dasein, aus dem Dasein verschwinden. Fin de citation. Le Dasein qui existe d'une manière propre est donc celui qui se retient. Et les pages du cours du semestre d'été 1924 consacrées au concept aristotélicien d'exis semble montrer que Heidegger thématise cette retenue en premier lieu sur la base donc du concept d'exis, plus précisément de l'exis entendu comme avoir, et plus précisément encore sur la base d'un sens particulier de l'avoir mentionné par Aristote, donc au lit delta de la métaphysique. Qu'est-ce qui toutefois se trouve proprement retenu? Une précision fondamentale s'impose ici. Si savoir signifie pour le Dasein se retenir, au sens de lutter contre le mouvement de dispersion du Dasein dans le monde, il faut ajouter, préciser immédiatement, que la dite retenue ne coupe pas véritablement, on peut dire, le Dasein de ce mouvement de dispersion. Je veux dire que la retenue a le sens d'une authentique reprise, la retenue assumant, relevant l'existence dispersée. Heidegger l'énonce clairement dans Être et Temps. L'être en propre ne désigne pas autre chose, une autre existence que l'être impropre. Elle constitue bien plutôt, je cite l'expression de Heidegger, donc dans Être et Temps, page 212, l'existence propre constitue une modification existentielle du on, eine existentielle Modifikation des Mann, modification existentielle du on, c'est-à-dire de l'être impropre du Dasein. Le concept aristotélicien d'exis permet également d'éclairer ce mouvement de reprise de l'uneigentlichkeit, de l'impropriété. Donc non seulement retenue, mais reprise de l'impropriété. Il faut se reporter à nouveau au cours du semestre d'été 1924, cette fois au paragraphe 18. Heidegger y fait référence au traité de l'âme, 2.5, où il s'explique que l'acquisition d'une exis ne constitue pas une altération ou un pâtir au sens strict. Et je vais suivre ici les analyses développées par Christian Sommer dans son ouvrage Heidegger, Aristote, Luther, les sources aristotéliciennes et néo-testamentaires d'être et temps, c'est page 260-267. Dans le traité de l'âme de 5, Aristote distingue deux sortes d'altération ou de pâtir. Et je cite, subir une affection, pascaïn, n'est pas une opération simple, mais représente tantôt une sorte de destruction, phtora, sous l'effet du contraire, tantôt ce qui serait plutôt une préservation, on peut dire un salut, parce que c'est soteria, de l'être potentiel, par l'être en entélechie, auquel il ressemble, comme la puissance, en fait, de l'entélechie. Fin de citation. L'altération, chez Aristote, l'altération au sens strict est une destruction, une corruption, le remplacement d'une qualité par une autre. Mais l'autre espèce d'altération, qui selon Aristote n'en est pas véritablement une, cette autre espèce d'altération n'est pas une corruption mais une préservation, une sauvegarde, un salut plus exactement, on pourrait dire un salut au sens de progression ou enrichissement. Et Lexis est le résultat de cette espèce d'adhération qui n'en est pas véritablement une. La science, par exemple, devient une Lexis par l'exercice répété du savoir. Cette forme d'altération, entre guillemets, ne détruit rien, elle préserve en l'enrichissant ce qui existait auparavant, c'est-à-dire la science comme diathésis, c'est-à-dire disposition transitoire et instable. L'exercice répété de la science, qui produit une lexis, donc non plus seulement une diathésis mais une lexis, l'exercice répété de la science ne détruit pas la diathésis mais la conserve en l'enrichissant. Donc lexis ne détruit pas mais conserve. Et c'est en ce sens que l'exis constitue proprement une sotéria, un salut. Je commente le passage du De Anima, du traité de l'âme que j'ai cité. Il le commente en 1924 de la façon suivante, je cite, donc c'est le tome 18 des œuvres complètes, page 196, et je reprends donc la traduction de Christian Sommer dans l'ouvrage Religions, auquel j'ai fait référence, Heidegger, Aristote-Luther, les sources aristotéliciennes et néo-testamentaires des traitants, c'est page 265-266. Donc je lis Heidegger. Il m'arrive quelque chose en sorte que cette épreuve ou ce pâtir, Leiden, possède le caractère du sotzei, du sauvé. Par le fait que je rencontre quelque chose, qu'il m'arrive quelque chose, je ne suis pas anéanti, vernichtet, mais j'accède moi-même à un état propre. Eigentlicher Zustand. Autrement dit, la possibilité, Möglichkeit, qui était en moi, devient maintenant réelle, Wirklich, à proprement parler. Et Heidegger ensuite va jusqu'à faire référence à l'Aufhebung Hegelis. Je continue à lire. Hegel a pris ce phénomène chez Aristote sous le terme de dépassement conservateur, Aufhebung. Le pathos, c'est donc ce qui me fait perdre une chose, et c'est en préserver, aufheben, un sauver, retten, préserver au sens de conserver, aufbewahren, d'élever, in aufheben, à l'être propre, eigentliches sein, et plus haut de l'énergie. Fin de citation. Donc, l'exis aristotélicienne est à concevoir comme un processus d'enrichissement, comme une progression qui conserve et en ce sens, sauve. De sorte que, on peut dire, savoir signifie tout à la fois, pour le Dasein heideggerien, se retenir et se sauver, au sens de se conserver l'existence propre, conservant en l'enrichissant l'existence impropre. Raison donc pour laquelle Heidegger, on peut le supposer, envisage d'un traitant l'Eigentlichkeit comme une modification de l'Uneigentlichkeit. Il dit aussi que l'existence propre est une saisie modifiée de l'existence impropre. Donc, les analyses de Heidegger relatives à l'exis aristotélicienne montrent qu'il a en vue ce concept lorsqu'il comprend l'avoir soi-même comme une retenue de soi, entendue comme salut de l'impropriété. Il apparaît clairement ici que le Dasein qui existe d'une manière propre n'est pas un étant nu au sens strict. Je veux dire qu'il ne cesse pas d'avoir les étants intramondains. Car le Dasein qui ça retient l'existence impropre, existence qui s'identifie aux étants intramondains. Cela se trouve confirmé par les analyses de Heidegger relatives à une exis particulière, la phronesis, c'est-à-dire la prudence. Prudence qu'Aristote tient pour une pratiquée exis. Une exis pratique. La compréhension heideggerienne de l'avoir soi-même beaucoup à la phronesis aristotélicienne, celle-ci donne à penser le mouvement d'appropriation de soi comme une projection, une anticipation qui reprend, assume l'existence impropre. Alors Heidegger mène une analyse détaillée du concept de phronesis dans la première partie du cours, première partie centrée sur Aristote. Dans la première partie du cours qu'il donne en 1924-1925 et qui porte sur le sophiste de Platon, mais la première partie du cours donc porte sur Aristote. Heidegger s'intéresse aux cinq modes de l'allete ein, c'est-à-dire du dévoilement de l'étang à partir de lui-même, évoqué par Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, 1139-15. Je cite Aristote. « soit alors les moyens qui permettent à l'âme d'énoncer la vérité sous forme d'affirmation ou de négation, ils sont au nombre de 5, c'est-à-dire la technique, techné, la science, episteme, la prudence, phronesis, la sagesse, sophia, l'intelligence, nous. Fin de citation. La phronesis constitue un type particulier de logos, un logos qui a non seulement en vue un étant mu, c'est-à-dire qui n'existe pas sur le mode de l'ae, du toujours identique à lui-même, mais qui a en vue l'étant même qui est doué de phronesis, autrement dit, l'étant phronimos, donc l'homme prudent. Cet homme prudent décide plus précisément des voies, des moyens les plus adaptés à l'obtention de son bonheur. Et il décide de ses moyens dans le moment du bouleuestai, c'est-à-dire de la délibération. Heidegger en ce terme par Überlegung. La prudence se démarque notamment de ce point de vue de l'épistémé. Elle ne met pas seulement en jeu une connaissance de l'universel, c'est-à-dire une connaissance des idées, des formes, mais d'abord et avant tout du particulier. Heidegger nomme situation, alors il peut dire situation ou lag, il nomme situation ce qui se trouve dévoilé par la proairesis, c'est-à-dire sur la résolution sur laquelle débouche le bouleuestai, la délibération de l'homme prudent. La vie humaine se déploie toujours nécessairement dans des situations variables, dans la mesure où elle existe sur le mode de l'être à chaque fois. Étant jeweils, à chaque fois, ce qu'elle est, elle se précède toujours dans le monde, on peut dire, se rencontre comme déjà là. Cette situation, cependant, n'est pas donnée d'emblée. De prime abord et le plus souvent, dans l'existence quotidienne, elle se trouve recouverte. Elle n'est pas connue par la vie oublieuse d'elle-même et de son être au monde. Elle se trouve proprement découverte, mise au jour, par la proairesis. Je cite donc le cours de Heidegger, Platon le sophiste, page 143-144. L'action, dit Handlung, est bien anticipée, vorweggenommen, comme ce à quoi je me résous, als das, wozu ich mich entschließe. Mais dans l'anticipation, de manière caractéristique, les circonstances, dit Umstände, et ce qui est lié à l'exécution de l'action ne sont pas encore donnés. C'est plutôt la situation qui doit devenir transparente, précisément à partir de la référence constante à ce à quoi je me suis résolu. Fin de citation. La proairesis, la résolution, met au jour la situation du Dasein, de prime abord le plus souvent voilée. Heidegger précise par la suite que la conclusion du mouvement délibératif, c'est-à-dire la proairesis, la résolution, il précise que cette conclusion ne diffère en rien de l'action. Elle n'est pas quelque chose qui prépare l'action, ni même sa condition sine qua non, elle est l'action elle-même. Je cite à nouveau le cours de Heidegger, Platon le sophiste, page 145. Le bouleuestai, le fait de délibérer à fond, est accompli en tant que logizestai, de telle manière qu'une connexion discursive est vivante en lui, un parler cohérent, zulogizestai, zulogismos, caractérisé extérieurement comme conclusion, schluss. Toute démonstration a une conclusion. La conclusion du bouleuestai, donc de la délibération, est l'action elle-même, die Handlung selbst. Ce n'est pas une proposition quelconque, une connaissance quelconque, mais le fait de se lancer dans l'action pour celui qui agit comme tel. Das Losbrechen des Handelnden als solchen. Fin de citation. Cette citation que je viens de donner éclaire directement le passage d'être étant que j'ai évoqué en introduction, qui fait intervenir la notion d'habitus vide. Je relis ce passage en citant cette fois le passage complet, qui montre bien que Heidegger a en vue la thématisation aristotélicienne de la proairesis dont je viens d'exposer les grandes lignes. Donc je donne le passage, page 234 d'être étant. La résolution ne saurait être en aucune manière confondue avec un habitus vide et une velléité indéterminée. La résolution ne se représente pas d'abord en prenant connaissance d'une situation, à une situation, mais c'est déjà placé en elle. Hat sich schon in sie gestellt. En tant que résolu, le Dasein agit déjà. Als entschlossen handelt das Dasein schon. Fin de citation. On voit ici que, si j'ose dire, les mains du Dasein qui existent d'une manière propre ne sont pas vides. que le Dasein qui existe d'une manière propre, autrement dit, n'est pas au sens strict nu, qu'il ne fait pas le choix d'une existence dépouillée. Le savoir soi-même n'est pas un habitus, une excise vide. Pour le Dasein, savoir signifie se lancer dans l'action. Donc, il ne cesse absolument pas de se rapporter aux états intramondains. Heidegger le dit clairement dans Être et Temps, page 232. En tant qu'être soi-même propre, la résolution ne coupe pas le Dasein de son monde, elle ne l'isolerte pas comme un jeu flottant en l'air. Comment du reste le pourrait-elle quand, en tant qu'ouverture propre, elle n'est rien d'autre, mais proprement, que l'être au monde. Au contraire, la résolution transporte justement le soi-même dans ce qui lui est à chaque fois son être préoccupé auprès de la portée de la main. Et elle le rejette dans la sollicitude de son être, avec autrui. Fin de citation. Donc le Dasein qui existe d'une manière propre ne cesse absolument pas d'avoir les états intramondains. Et mieux, on pourrait dire, qu'il les a en un certain sens pour la première fois, au sens où, comme on l'a vu, la résolution, qui n'est pas un avoir vide, qui n'est rien d'autre que l'action, au sens de cette résolution, met au jour la situation, c'est-à-dire le là du Dasein, le da du Dasein. Donc, l'éthique aristotélicienne dépeint l'avoir soi-même comme une anticipation doublée d'une reprise, le Dasein se projetant vers l'avenir tout en assumant son existence échue. Il semble toutefois que la référence à l'exis aristotélicienne ne suffise pas à rendre compte du sens de l'avoir soi-même heideggerien. Pourquoi ? Parce qu'elle ne donne pas véritablement à penser le phénomène de l'Unheimlichkeit. Alors, cette expression qu'on a rencontrée en introduction, Emmanuel Martin la rend par étrangèreté. Cette traduction ne me paraît pas absolument adéquate pour une raison qui apparaîtra par la suite. L'expression de d'Unheimlichkeit intervient notamment dans les paragraphes d'Être et Temps qui portent sur le phénomène de la conscience, donc Gewissen. Le Dasein s'approprie son être en répondant à l'appel de la conscience. Et cet appel, écrit Heidegger, apparaît unheimlich au Dasein perdu dans le on, au Dasein échu. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Il faut comprendre d'une part que savoir signifie pour le Dasein, certes, reprendre, maintenir ce qu'il a été, mais également, tout aussi bien, détruire ce qu'il a été. Plus précisément, détruire l'existence impropre. Heidegger exprime cette idée en écrivant que la voie unheimlich de la conscience est, je cite page 218 d'Être et Temps, quelque chose comme une voie étrangère. So etwas wie eine fremde Stimme. C'est bien le Dasein qui s'exhorte à l'Eigentlichkeit. Il n'est en aucun cas appelé par un autre étant que lui, par exemple par l'étant divin. Raison pour laquelle Heidegger écrit, dans la phrase que je viens de donner, etwas wie, quelque chose comme une voie étrangère. Pour autant, l'aspect étranger de la voie de la conscience n'est pas une illusion. L'existence propre, en effet, rompt fondamentalement avec l'existence impropre. De sorte que l'avoir soi-même doit être interprété comme Heidegger peut le dire, un mouvement contraire ou un contre-mouvement. Et c'est tout le sens de la résolution devançante, de la résolution vers ou à la mort, ou pour la mort. Le Dasein qui ça nie ce qu'il a été. Il se comprend en vérité comme un étant intrinsèquement négatif, comme une nullité, Nichtigkeit. La voix de la conscience apparaît donc unheimlich au Dasein qui existe d'une manière impropre, au sens où elle exhorte le Dasein à détruire son existence quotidienne et à assumer sa nullité. Exister d'une manière propre signifie précisément pour le Dasein assumer cette nullité dans le moment du Sein zum Tode, c'est-à-dire de l'être pour la mort, ou de l'être vers la mort ou à la mort. L'Unheimlichkeit Heidegger dit également autre chose. Il faut aussi entendre dans cette expression le substantif Heim, c'est-à-dire foyer, maison ou chez soi. Le concept d'Unheimlichkeit, on le sait, est employé quelques années avant la publication d'Être et Temps, en 1919, par Freud dans son essai intitulé Das Unheimliche, traduit en français par l'inquiétante étrangeté. Or, en s'appuyant sur le Wörterbuch der deutschen Sprache, tome 1, de Daniel Sanders, ainsi que sur les indications de Jacob et Wilhelm Grimm dans le Deutsches Wörterbuch, Freud note que les mots « heimlich » et « unheimlich » peuvent posséder la même signification. L'unheimlichkeit heideggerienne ferait ainsi signe vers ce qui met simultanément le plus étranger et le plus intime. L'unheimlichkeit serait en réalité le foyer, la demeure, qui de prime abord m'apparaît étrangère, mais qui constitue en vérité la demeure véritable. Donc je disais que la traduction par étrangèreté n'était peut-être pas absolument adéquate, parce qu'il n'y avait pas cette idée de demeure de Heim. Alors le terme Fremd, qui, on l'a vu, joue un rôle central dans les traitants consacrés au phénomène de la conscience, puisque la voix de la conscience, dit Heidegger, est quelque chose comme une voix étrangère, Fremd. Ce terme Fremd semble revêtir, aux yeux d'Heidegger, une signification similaire. Donc, conforme à l'unheimlichkeit comme idée de accès au foyer véritable. Dans un texte plus tardif, Acheminement vers la parole, commentant un vers du poète Georg Trakl, le vers « L'âme est en vérité chose étrange sur terre, es ist die Seele ein Fremdes auf Erde », commentant ce vers, Heidegger demande, donc je cite Acheminement vers la parole, page 45, « Que veut dire étrange, Fremd ?» En se référant au vieil allemand Fram, il décrit l'étrangeté comme un mouvement vers le foyer, vers la demeure, c'est-à-dire vers le propre. Je cite, encore page 45, « Étranger, Fram, en vieil allemand Fram, signifie proprement vers ailleurs en avant, en train de faire chemin, à l'encontre de ce qui est, ce qui est d'avance réservé. Ce qui est étranger pérégrine en avant, mais il n'erre pas, dénué de toute destination, désemparé de par le monde. La quête de l'étranger marche à l'approche du site, Ort, où, comme pèlerin, il pourra trouver demeure. O.S. as ein Wanderndes bleiben kann. L'étranger a déjà donné suite à l'appel, à lui-même à peine dévoilé, qui le met en route vers son propre. Auf den Weg in sein eigenes. Fin de citation. Donc, l'étranger, pour Heidegger, n'est pas celui qui est dehors, n'est pas celui qui est hors de chez lui. Ou plutôt, il est celui qui sort de chez lui, qui quitte sa demeure, mais en quête de son foyer, de sa maison, de son habitation véritable. En termes grecs, savoir soi-même signifie pour Heidegger découvrir son oikos véritable, sa demeure, sa maison véritable. On rencontre ici le motif de l'habitat ou de l'habitation, qui est évidemment central chez Heidegger. Être au monde ne signifie ni plus ni moins pour lui qu'habiter le monde, comme le souligne le paragraphe 12 d'être étant. Alors, cette thématique de l'habitation, évidemment, n'est pas absente chez Aristote. On se rappellera qu'Aristote domine nettement, dans les premiers chapitres de ses politiques, l'art politique et l'art d'administrer la maison, et à travers eux, les sphères de la police et de l'oikos. Donc, ici, on pourrait penser que l'homme prudent aristotélicien ne s'accomplit pas en tant que tel au sein de la maison, mais en sortant de chez lui, en quittant le foyer et l'oikos. Donc, de prime abord, il semble que Aristote ne pense pas à l'existence propre comme une existence qui rejoint la maison. On a vu cependant que Heidegger thématise le dévoilement de la situation du « là » du « Dasein » sur la base des analyses aristotéliciennes de la phronesis. Et d'autre part surtout, Aristote tient le bien en soi visé par l'existence prudente pour un bien « oikeios ». Qui signifie à la fois de la maison ou domestique et propre particulier. Je cite un passage de l'éthique à Nicomaque, 1095b22, où Aristote explique que l'honneur ne saurait être tenu pour un bien en soi. Je cite, les personnes de marque et portées à l'action vivent pour l'honneur. De fait, l'existence politique a en somme cela pour fin. Mais l'honneur paraît être une chose trop légère par rapport au bien recherché, car il semble dépendre de ceux qui l'accordent, plutôt que de celui qui le reçoit, alors que le bien est chose intime, oikeion, et malaisé à ravir, nous le devinons. Fin de citation. Pour tout bien considéré, l'homme prudent aristotélicien quitterait certes sa demeure, mais il le ferait en quête de sa demeure, de son habitation véritable, il s'agirait bien pour lui de découvrir son véritable chez-soi. Heidegger semble l'indiquer dans son cours du semestre d'été 1924, page 78, je cite, il commente précisément le passage de l'éthique à Nicomaque que je viens de citer. « Dans la mesure où il appartient aux autres, l'honneur n'est pas un nagaton oikeion. Il n'est pas un bien tel qu'il est chez soi, sous house, auprès de mon être et sur le fondement de cet être. Un nagaton, qui est l'agaton du Dasein au sens propre, doit être chez soi dans cet être en tant que tel. » L'homme prudent aristotélicien, comme le Dasein heideggerien, serait donc en quête de son véritable chez soi. Là où le bas blesse toutefois, c'est qu'Aristote semble considérer uniquement l'accès à la vie propre comme un mouvement d'enrichissement, un mouvement de sauvegarde, et non pas comme un mouvement de destruction. Il n'envisage pas proprement, autrement dit, la résolution comme une résolution pour la mort, ce que Heidegger nomme la résolution devançante, Vorlaufende Entschlossenheit. Aristote ne comprend pas proprement la phronesis, la prudence, comme une assomption de la finitude, de la nullité du Dasein. On le comprend en lisant les analyses qu'Aristote consacre au livre 2 de la rhétorique à la peur, Phobos. Certes, Heidegger les reprend clairement à son compte dans Être et Temps, après les avoir commentés en détail dans le cours du semestre d'été 1924, paragraphe 21. Aristote explique ainsi que l'homme en proie à la peur ou à la crainte fuit en quelque sorte devant lui-même, alors que lui apparaît non pas un certain étang, mais une possibilité qui s'annonce dans un indice, semeia, et le concerne en propre. Il note également que ce recul peut déboucher sur l'acquisition d'une certaine exis, le courage, mut, et que cela porte également à délibérer dans l'espoir d'être sauvé, dans l'espoir d'obtenir le sel. L'analyse aristotélicienne de la peur ou crainte tourne néanmoins sur une remarque qui empêche de voir dans la résolution heideggerienne une simple reprise de la phronesis aristotélicienne. Celle-ci, dit Aristote, ne se rapporte pas à la mort, n'a jamais la mort en vue. Alors je lis le passage de la rhétorique où il exprime cette idée. Donc c'est livre 2, chapitre 5. On ne craint pas tous les maux, par exemple d'être injuste ou lent d'esprit, mais seulement ceux qui peuvent amener ou peine grave ou destruction. Encore faut-il que ces maux apparaissent non pas éloignés, mais proches et imminents. Quand l'on ne craint pas ceux qui sont très lointains, tous les hommes savent en effet qu'ils mourront, mais la mort n'étant pas proche, ils n'en ont aucun souci. Uden Francis Susin. S'il décrit parfaitement la situation de l'homme en proie à la peur, Aristote ne thématise pas proprement la résolution comme une résolution devançante, c'est-à-dire comme une assomption de la finitude, de la nullité du Dasein. Une nullité qui s'annonce donc dans l'Unheimlichkeit de la voie de la conscience. La thématisation aristotélicienne de la phronesis ne permet donc pas de rendre compte véritablement d'un caractère décisif de l'avoir soi-même, la destruction de ce qui, paradoxalement, se trouve dans le même temps maintenu. Le soupçon duquel nous sommes partis ressurgit alors. Le Dasein qui assume sa nullité, qui répond à la voix unheimlich de la conscience, n'est-il pas proprement un étant nu? Si le Dasein existe d'une manière propre en détruisant l'existence impropre, l'existence propre n'est-elle pas une existence dépouillée? Et on remarquera que dans les stations d'être et temps que j'ai rapportées au début de mon introduction, la nudité du Dasein est systématiquement rapportée au phénomène de l'unheimlichkeit. Alors, pour évacuer ce soupçon, il faut s'intéresser à présent à l'autre source, on peut dire, de la thématisation heideggerienne de l'avoir soi-même, c'est-à-dire la source religieuse et plus précisément chrétienne. Et je vais suivre à partir de là le cours de 1920-1921 intitulé « Introduction à la phénoménologie de la religion », donc c'est dans l'ouvrage en français « Phénoménologie de la vie religieuse ». Donc ce cours, Heidegger commente dans les détails certaines des épîtres pauliniennes. Paul distingue explicitement deux formes d'avoir, l'avoir du monde ou de la chair et l'avoir de Dieu, ou plus exactement, il dit de l'esprit de Dieu. Et à travers eux, il distingue deux oikos, l'oikos terrestre et l'oikos divine. Je cite l'Épître aux Romains 8, 5 13, un passage auquel Heidegger fait référence dans la phénoménologie de la vie religieuse, page 138, je cite, « Ceux qui vivent selon la chair désirent ce qui est charnel, ceux qui vivent selon l'esprit ce qui est spirituel, car le désir de la chair c'est la mort, tandis que le désir de l'esprit c'est la vie et la paix, puisque le désir de la chair est inimitié contre Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, il ne le peut même pas, et ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Vous, vous n'êtes pas dans la chair mais dans l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. » Pneumatheu, ok, en humin. Qui n'a pas l'esprit de Christ n'est pas à lui, mais si le Christ est en vous, bien que le corps soit mort déjà en raison du péché, l'esprit est vie en raison de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, ok, en humin, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, mes frères, nous sommes débiteurs, mais non point envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions, praxeis, du corps, vous vivrez. Fin de citation. Alors Luther, Weizsäcker et Nestle, les trois traducteurs allemands du Nouveau Testament auxquels se réfère Heidegger dans son cours, ces trois traducteurs rendent Eukein par wohnen, habiter, et Eukein par haben, avoir. On rencontre clairement dans ce passage le caractère qui n'était pas proprement présent chez Aristote. C'est-à-dire l'idée d'un accès à l'oikos, la maison, l'habitat propre, par destruction de l'impropre. Paul dit, le croyant vit véritablement en faisant mourir les actions du corps. On notera que Paul envisage ici l'habitation propre, comment laisser habiter l'esprit de Dieu en nous. De la même façon, dans Être et Temps, Heidegger décrit la réponse à l'appel de la conscience, ce qu'il appelle le vouloir avoir conscience, comment laisser agir en soi. Je cite page 231. Le vouloir avoir conscience est un laisser agir en soi le soi-même le plus propre à partir de lui-même. Je cite encore un peu avant page 226. Comprenant l'appel, le Dasein laisse le soi-même le plus propre agir sur soi à partir du pouvoir-être qu'il a choisi. Donc on peut dire que le Dasein qui accède à sa demeure véritable n'est pas maître en sa demeure. Mettre chez lui. L'habitation propre consiste d'une certaine manière en laisser habiter. Le Dasein qui existe d'une manière impropre laisse habiter quelque chose comme une voix étrangère. Alors, avoir Dieu, laisser Dieu ou l'Esprit de Dieu habiter en nous, implique de se détacher des préoccupations mondaines. C'est-à-dire, dans le vocabulaire de Paul, de se détacher des actions du corps. Mais quel sens précis faut-il donner à ce détachement? Alors, il faut en vérité comprendre, et c'est le point essentiel, il faut en vérité comprendre que ce détachement n'a pas le sens d'une renonciation pure et simple. Autrement dit, que le croyant paulinien, comme l'homme prudent aristotélicien, ne cesse pas d'avoir les états intramondains, alors même que le croyant paulinien les fait mourir. Heidegger l'indique un peu plus clairement dans les dernières pages de son cours. Il insiste alors sur le fait que la notion d'esprit et de chair désigne précisément des modes de l'avoir, ekein ou hab. Des modes de l'avoir, c'est-à-dire des dispositions, des tendances ou encore des comportements, des attitudes. Les notions d'esprit et de chair désignent des manières d'avoir, non pas des composantes, des parties de l'homme. Je cite Phénoménologie de la vie religieuse, page 138-139. Chez Paul, le pneuma, esprit, est la base de l'accomplissement d'où jaillit le savoir lui-même. Sarx, c'est-à-dire la chair, est un phronema, une disposition, eine Gesinnung, c'est-à-dire une tendance, eine tendance de la vie. Sarx est la connexion d'accomplissement de la facticité propre dans la vie en rapport au monde ambiant. Son opposé, pneuma, est donc le doulehein, c'est-à-dire le servir. Chez Paul, il n'y a pas de, c'est surtout ça qui est important, chez Paul, il n'y a pas de pneuma einai, être esprit, comme c'est le cas dans le corpus hermeticum, mais un pneuma ekein, avoir l'esprit, en pneumati peripatein, marcher dans l'esprit. Il est donc faux de prendre pneuma, l'esprit, pour une composante de l'homme. Au contraire, l'anthropos pneumaticos, l'homme spirituel, est un homme qui s'est approprié une propriété déterminée de la vie. Fin de citation. Heidegger vise dans ce passage, pour s'y opposer, les interprétations qui tentent d'établir un lien entre les écrits pauliniens et les religions à mystère hellénistiques. Il fait référence en note aux analyses de Reitzenstein dans Die hellenistischen Mysterreligionen nach ihren Grundgedanken und Wirkungen. Reitzenstein considère que la notion paulinienne d'esprit est héritée du corpus hermeticum, qui comprend l'union à la divinité par l'esprit comme une sortie du monde. Je lis un passage donc de ce corpus, le 13e traité 3. Voyant en moi-même une vision immatérielle produite par la miséricorde de Dieu, je suis sorti de moi-même pour entrer dans un corps immortel, et je ne suis plus maintenant ce que j'étais, mais j'ai été engendré par l'intellect. C'est pourquoi aussi je n'ai plus souci de cette première forme composée qui fut la mienne. Je n'ai plus de couleur, ni le sens du toucher, ni de mesure de l'espace, tout cela m'est étranger. Fin de citation. Donc l'interprétation de Reitzenstein procède à une identification du pneuma ekein, avoir l'esprit, au pneuma einai, être l'esprit. De sorte que Paul considérait l'esprit comme, on peut dire, une certaine chose à laquelle je suis appelé à m'assimiler hors du monde. Heidegger s'oppose fermement à ce type d'analyse. Avoir l'esprit ne signifie pas le devenir, c'est-à-dire se poser en lui, mais tout au contraire, on peut dire, adopter une certaine attitude dans ce monde, vivre d'une nouvelle manière, d'une manière renouvelée, qui tranche radicalement avec la manière dont les hommes vivaient avant la manifestation du Christ. C'est la raison pour laquelle, peut-on ajouter, Paul prend bien soin d'accoler au terme spirituel celui d'homme. Je parle d'homme spirituel. C'est-à-dire qu'en croyant, je ne deviens pas l'esprit, mais un homme spirituel. Autrement dit, en mourant avec le Christ, je ne deviens pas Dieu. Pas plus que je me dissous en lui, je deviens un homme. Et donc, je reste dans le monde. Donc, avoir Dieu signifie effectivement nier le monde, mais également, tout aussi bien, continuer à vivre parmi les états intramontains. C'est-à-dire que l'oikos divine n'est pas un autre oikos que l'oikos. Heidegger y insistait déjà un peu plus haut, au moment de commenter la première épître aux Corinthiens, 7, 17-31, où Paul décrit les effets de l'appel de Dieu sur les appelés. Alors, je cite Paul, un assez long passage. « Par ailleurs, que chacun marche dans la condition que lui a départie le Seigneur, telle que l'a trouvé l'appel de Dieu. C'est la règle que j'ai tapée dans toutes les églises. Quelqu'un était-il circoncis lors de son appel ? Qu'il ne se fasse pas de prépuce. L'appel l'a-t-il trouvé incirconcis, qu'il ne se fasse pas circonscrit. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien. Ce qui compte, c'est de garder les commandements de Dieu. Que chacun demeure tel que l'a trouvé l'appel de Dieu. Étais-tu esclave, Boulos, lors de ton appel? Ne t'en soucie pas, messoi meleto. Et même si tu peux devenir libre, mets plutôt à profit ta condition d'esclave. Car celui qui était esclave lors de son appel dans le Seigneur est en affranchi du Seigneur. Pareillement, celui qui était libre lors de son appel est un esclave du Christ. Vous avez été bel et bien acheté. Ne vous rendez pas esclave des hommes. Que chacun frère demeure devant Dieu tel que l'a trouvé son appel. Je vous le dis, frère, le temps se comprit. Que désormais ceux qui ont, oi et contes, femme, vivent comme s'ils n'en avaient pas. Os me contes aussi. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui sont dans la joie comme s'ils n'étaient pas dans la joie. Ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas. Ceux qui usent de ce monde comme s'ils n'en usaient pas vraiment. Car elle passe la figure de ce monde. Paragei, toskema, tout cosmos, tout tout. Fin de citation. Alors, le début et la fin de ce passage doivent tout particulièrement attirer notre attention. Paul y explique que l'homme qui a des choses dans le monde doit faire comme s'il ne les avait pas. Encore faut-il toutefois bien entendre le syntagme osme, donc cosme, comme s'il ne pas. Selon Heidegger, il ne dénote pas une absence de rapport au monde comme un rejet, une renonciation pure et simple, comme si ne pas n'est pas satisfaisante. Je lis Heidegger, Phénoménologie de la vie religieuse, page 134-135. On est tenté de traduire le osme par comme si, mais cela ne va pas. Comme si exprime une connexion objective et suggère l'idée que le chrétien devrait bannir ses références au monde ambiant. Ce « os » signifie positivement un sens nouveau qui vient se surajouter. Le « mais » concerne la connexion d'accomplissement de la vie chrétienne. Donc le osmé ajoute quelque chose, un sens nouveau. Qu'est-ce qui se trouve proprement ajouté à l'existence impropre, à l'existence soucieuse des états intramondains? Le point décisif est que l'appel de Dieu ne transforme pas la vie dans son quoi, c'est-à-dire dans son vas, mais dans son comment, dans son vie. C'est-à-dire dans le sens d'accomplissement de l'intentionnalité qui correspond à la temporalité ou temporation, Heidegger dit Zeitigung, de la vie facticielle. Selon Heidegger, seule la temporalité de la vie est modifiée et transformée par l'appel. Il l'explique dans son commentaire de la première épître aux Corinthiens 7:17-31, donc c'est Phénoménologie de la vie religieuse, page 133. Schématiquement, quelque chose demeure inchangé et subit pourtant un changement radical. Ce qui subit un changement, ce n'est pas le sens référentiel, c'est-à-dire la relation, le rapport social au monde, et moins encore la teneur, c'est-à-dire ce qui est vécu, le vase. Donc, le chrétien ne sort pas du monde. Si quelqu'un a été appelé en condition d'esclave, il ne doit nullement succomber à la tendance à croire qu'un accroissement de sa liberté lui ferait gagner quelque chose pour son être. L'esclave doit demeurer esclave. Les directions de sens qui visent le monde ambiant, le métier et ce qu'on est, ne déterminent en aucune façon la facticité du chrétien. Néanmoins, elles sont là, elles sont maintenues et simplement appropriées en propre. L'être devenu fait que les significativités du monde ambiant deviennent des biens temporels. Envisagé sous cet angle, le sens de la facticité se détermine comme temporalité. Fin de citation. Alors, d'un certain point de vue, et j'en ai bientôt terminé, hein, d'un certain point de vue, la vie se voit transfigurée par la paix. Le croyant se détache du monde au sens où il n'envisage plus l'ensemble de ses possessions comme la fin, comme la finalité de sa vie, comme le « en vue de quoi » de sa vie. En un autre sens, pourtant, la vie selon Dieu n'est pas différente de la vie selon le monde. Elle n'est pas modifiée dans son « quoi », dans son « vas », elle existe toujours sur le mode du souci. L'homme qui a Dieu, ou l'esprit de Dieu, ne rompt pas, à proprement parler, avec le monde. Il est simplement celui qui adopte une autre attitude face aux états intramondains. Alors, quelle attitude? L'idée centrale, c'est que les significativités du monde deviennent pour lui des biens temporels. Le croyant comprend, selon les mots de la première épître aux Corinthiens, qu'elle passe la figure de ce monde. Le croyant, autrement dit, continue à avoir les états intramondains. Et de ce point de vue, l'avoir des états intramondains et de l'existence échue n'est pas autre chose que l'avoir de Dieu. Mais, affecté par la crainte de Dieu, c'est une première thématisation de l'angoisse, il comprend simultanément que les biens qu'il prenait pour des possessions, pour des richesses, pour des biens disponibles, et à cet égard, pour des biens rassurants, il comprend que ces biens ne sont que des biens fugaces, temporaires, voués à disparaître. Alors, Paul écrit « Elle passe la figure de ce monde. » Figure rend ici le grec « schéma ». Heidegger commente cette phrase dans la Phénoménologie de la vie religieuse, page 134, en traduisant « schéma » par « gestalt », c'est-à-dire la forme au sens de la figure. Il suit sur ce point la traduction du Nouveau Testament par Weizsäcker. Luther et Nestle proposent quant à eux une traduction, qu'on peut dire, ontologique, parce qu'ils rendent schéma par Wesen, c'est-à-dire nature, essence ou être. Heidegger s'oppose implicitement à cette traduction. Je le cite, « Tout schéma, tout cosmo, elle passe la figure de ce monde-ci. » Donc, « Die Gestalt der Welt geht vorbei. » Schéma n'a pas tellement un sens objectif, mais indique une manière de se comporter. « Ein sich verhalten. » Et en effet, schéma peut aussi signifier manière d'être. L'épître aux Romains 12:2 montre comment schéma doit être compris. Donc, d'ailleurs, c'est Paul. Et ne vous modelez pas sur le monde présent. Je lis le commentaire de Heidegger. Cette formule nous fait entrevoir le caractère d'accomplissement de schéma. Puisque ne vous modelez pas, c'est mais sus schématique d'estin. Donc le terme de figure, schéma, ne désigne pas une propriété du monde, mais une manière de se comporter. Elle vient signaler que l'homme ne doit pas se modeler sur le monde, qu'il ne doit pas prendre la forme du monde, autrement dit qu'il ne doit pas s'interpréter comme un étant intramonde. On signalera néanmoins, et je vais terminer sur ce point, qu'il est possible d'interpréter autrement l'emploi ici du terme schéma. Alors, Heidegger, à ma connaissance, ne fait pas référence à cette autre interprétation, mais à mon sens, elle s'accorde avec ce qu'il tente d'exprimer c'est-à-dire l'idée que l'homme doit avoir les biens mondains tout en faisant comme s'il ne les avait pas. Et Heidegger dit par exemple qu'il doit adopter la forme de l'esclave tout en faisant comme s'il ne l'avait pas. Alors cette autre interprétation auquel je voudrais faire référence pour finir, c'est celle d'Augustin. Celui-ci a pris au sens propre le terme « schéma » pour interpréter le monde comme un habitus, mais un habitus au sens de l'habit ou du vêtement. Augustin emploie le terme d'habitus en ce sens dans ses 83 questions, dans la question 73. Il commence alors l'épître aux Philippiens 2:7-8, je cite, « Le Christ s'est dépouillé prenant la forme d'esclave, morphème, doulo. Devenant semblable aux hommes et reconnu à sa figure, schemati, en latin habitu, comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. » Fin de citation. Augustin distingue dans l'exégèse de ce texte trois sens de l'avoir. Plus exactement, de l'avoir accidentel. Alors, plus exactement, il en distingue quatre, mais je laisse le quatrième de côté. Alors, il distingue l'avoir au sens de l'habitus de l'âme, de l'habitus du corps et du vêtement. Et il indique que c'est le troisième sens qui convient au Fils dans le moment de l'incarnation. En s'incarnant, le Fils a l'homme au sens où on a un vêtement. Alors, je cite Augustin, un passage assez long. « Habitum peut s'entendre de plusieurs façons. Tantôt, c'est l'habitum de l'âme, comme l'intelligence d'une science quelconque, confirmée et fortifiée par l'usage. Tantôt, c'est l'habitum du corps, dans le sens où nous disons que l'un a plus d'embonpoint ou de force que l'autre, ce qu'on appelle proprement habitudo, c'est-à-dire état extérieur. Tantôt, c'est l'enveloppe extérieure que nous donnons à nos membres, et dans ce sens, nous disons qu'un homme est vêtu, chaussé, armé et le reste. Il y a une différence entre ces accidents. Certains de ces accidents, pour devenir un habitum, ne sont point transformés par nous, mais nous absorbent en eux tout en restant entiers et immuables. Et la sagesse, par exemple, qui ne subit pas de changement quand elle vient chez l'homme, mais qui change l'homme lui-même, en le rendant sage de fou qu'il était. D'autres, au contraire, changent et sont changés, comme la nourriture, par exemple, qui perd son espèce propre pour s'assimiler à notre corps, et d'autre part, le restaure de manière à changer sa maigreur et sa faiblesse en force et en nombre. D'autres enfin subissent un changement pour former l'habitum et reçoivent en quelque sorte une forme de ce auquel ils s'appliquent, comme un vêtement, vestis. Par exemple, qui n'a plus, quand on l'ôte et qu'on le met de côté, la même forme que quand il couvre nos membres. Il prend donc, quand on le revêt, une forme qu'il n'a plus quand on s'en dépouille, bien que dans les deux cas, nos membres restent dans le même état. Le Fils s'est anéanti lui-même, non en changeant sa propre forme, mais en prenant la forme d'esclave, non en se transformant en homme, aux dépens de son immutabilité, mais en revêtant la forme humaine, de manière à être fait semblable aux hommes, non pour lui, mais pour ceux aux yeux desquels il apparaissait sous cette forme, et reconnu à sa figure, habitu comme un homme, c'est-à-dire qu'ayant l'homme, abendo hominem, il a été reconnu comme un homme. Or, cet habitus n'appartient pas au premier genre d'accident dont nous avons parlé, car la nature de l'homme n'a point, en restant telle, transformer en elle la nature divine, ni au second genre, car l'homme n'a pas changé Dieu pour être ensuite changé par lui. C'est donc au troisième qu'il faut se rattacher. L'apôtre a assez indiqué le sens de ce mot « habitus » en disant « fait semblable aux hommes », car ce n'est point par transformation et par la figure « habitus » que le Christ s'est revêtu de la nature humaine, pour se l'unir en un sens, lui donner sa forme et l'associer à son immortalité et à son éternité. Les Grecs donnent proprement le nom d'exis à cet habitus de l'âme qui résulte de l'acquisition de la sagesse et de la science, tandis qu'ils réservent le mot de schéma pour exprimer l'habitus du corps, vêtu ou armé, par exemple. Or, c'est dans ce dernier sens que l'apôtre parle. Fin de citation. Alors, ce qu'Augustin explique ici, c'est que le Fils n'a pas l'homme, il n'a pas l'homme comme l'homme a la sagesse, car il n'est pas modifié par l'homme, tandis que la nature de l'homme demeurait inchangée. Il n'a pas davantage l'homme comme celui-ci a des aliments, car le Fils et l'homme ne se trouvent pas transformés par la voie. Le Fils a l'homme dans le même sens que l'homme a un vêtement, un habitus au sens de l'habit. L'homme se trouve transformé par la voie, comme le vêtement prend la forme du corps qui le porte, sans pour autant que le Fils se trouve, lui, changé. L'homme ne change pas quand il porte un vêtement. On remarquera par ailleurs que la thématique de l'habitus rejoint celle de l'habitation. On le comprend en lisant Eckhart, Maître Eckhart. Dans son commentaire à l'évangile de Jean, paragraphe 118, celui-ci adapte ainsi l'évangile selon Jean, 1,14. Je cite, le Verbe s'est fait chair et il a campé parmi nous. Dans la Vulgate, c'est habitavit in nobis, il a habité parmi nous. Et Carpe adapte ce texte en jouant sur la proximité des termes, en habitavit in nobis, il s'est fait habitus, il a adopté telle manière d'être en nous. Ainsi, le monde, à suivre Augustin, est-il, peut-on dire, un habit. L'homme a les états intramondains comme il a un vêtement. Alors, Heidegger, je l'ai dit, ne se réfère pas à ce sens de l'habitus, mais il me semble qu'il exprime bien ce qu'il tente d'exprimer, si évidemment on fait abstraction de la dimension réaliste de cette interprétation, c'est-à-dire que Heidegger ne conçoit évidemment pas le rapport à l'état intramondain comme une rencontre entre deux états distincts. Et je veux dire que le Dasein qui existe d'une manière propre, d'une certaine manière, ce Dasein a les états intramondains comme il a un schéma, un habitus, un vêtement. Il les a, ne cesse aucunement de se rapporter à eux, mais il les a sans pour autant être changé par eux, sans se laisser déterminer par eux. Il les a, autrement dit, tout en faisant comme s'il ne les avait pas, au sens où ils lui apparaissent comme des biens temporels, périssables. Alors, si cette interprétation est correcte, il en résulte en tout cas clairement que, contrairement à ce que certains passages d'être étant cités au début peuvent laisser penser, le Dasein qui existe d'une manière propre ne mène pas une existence dépouillée. Il n'est pas, à proprement parler, nu. Il l'est uniquement au sens où il prend la mesure de sa nullité, mais il ne cesse aucunement d'avoir les états intramondains. Heidegger semble en vérité nous l'indiquer lui-même dans un des passages que j'ai cité en introduction, page 263. Je le relis en donnant cette fois la phrase d'après. Dans la tonalité de l'angoisse, le Dasein est complètement repris en son étrangèreté nue et pris par celle-ci. Néanmoins, cette captation ne reprend pas seulement le Dasein en possibilité mondaine, mais elle lui donne, Gibbs, en même temps, la possibilité d'en pouvoir être propre. Le Dasein qui existe d'une manière propre, donc, n'est pas au sens strict nu, il est, on peut dire bien plutôt habillé, il a les états intramondains, tout en faisant comme s'il ne les avait pas, il porte d'une certaine manière les états intramondains comme on porte des vêtements. Je vous remercie. Et excusez-moi d'avoir été long.
Non, pas de problème. Merci Mathieu, merci beaucoup. C'était justement un exposé qui n'était pas du tout dépouillé. C'était un très bel exposé avec une perspective historique. Une perspective historique qui apporte un éclairage très, enfin je veux dire qui approfondit vraiment la fiction de la pensée heideggerienne et donc était évidemment très riche et très détaillée. Mais donc je te remercie encore et je passe tout de suite la parole à Philippe.
Alors, je prends la parole. Est-ce que je mets ma photo, enfin ma photo, mon image ou pas, Aurélien?
Oui, vas-y, essaye. Essayons, ouais, ce serait plus sympa.
D'accord, c'est sympa. Hein. Bon, je ne sais pas très bien, peu importe. Alors, donc, un grand tip pour cet exposé intéressant, très élevé. Alors, même que je peux en parler parce que je n'ai pas du tout.
Excuse-moi, le son coupe un peu. Enfin, parfois, ça
change. Je me rapproche de mon micro, ça va mieux.
Ah, voilà, ouais. Merci.
Là, ça va, ouais.
Si ça, n'hésite pas à m'interrompre hein, parce que c'est. C'est désagréable d'avoir la moitié des paroles. Alors, je reprends ce que je voulais dire. C'est d'abord un grand merci pour cet exposé. Il est vraiment très érudit, alors, qui me met un peu dans l'embarras parce que je n'ai pas ton érudition concernant aussi bien Saint-Paul, Aristote, que Saint-Augustin, ou Saint-Augustin, peu importe. D'une manière très générale, alors ça, c'est une question de méthode. Je m'interroge toujours depuis 2005, c'est la date de publication du livre de Christian Sommer que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Je m'interroge toujours sur la pertinence de cette érudition quant à la compréhension de la problématique heideggerienne. Je dis en deux mots, hein, très simplement, il me semble que ce qui est au cœur de ton propos, même si tu ne l'as pas peut-être dit tout de suite, c'est la Eigenswichheit, donc c'est l'authenticité ou l'être en propre. Alors, il me semble que le sich selbst haben est beaucoup plus rare sous la plume de Heidegger dans un Unzeit. Est-ce que je me trompe là, hein? C'est pas courante. Est-ce que je me trompe?
Ah non, je pense, je suis d'accord. Oui, c'est plutôt dans les cours d'avant.
Voilà. Le concept central dans un Unzeit, qui est le Hauptwerk, c'est le concept de Heidegger ou de Alors moi je traduis parce que je suis un peu marqué par Sartre, par authenticité, mais je suis d'accord, peut-être que c'est mieux de traduire par être en propre. Et la question très générale qui est la mienne et qui est celle-ci, c'est est-ce que au fond systématiquement, comme le fait Christian Sommer aussi, hein, qui avec son livre qui a été important dans la réception, dans la lecture de Heidegger et qui bien sûr est en partie une de tes sources, est-ce que se rapporter systématiquement au cours de Heidegger, bien sûr, parce que c'est Heidegger qui suit ses auteurs, donc c'est justifié, mais se rapporter systématiquement à Saint-Augustin, Aristote ou Saint-Paul, est-ce que ça éclaire tellement la problématique de la Heideggerigkeit? Moi, j'en suis pas entièrement convaincu parce que je proposerais une lecture plus, alors c'est un peu ridicule, mais je dirais plus existentielle. Je dirais que peut-être qu'il faudrait commencer d'abord par comprendre ce que signifie pour Heidegger lui-même exister en propre. Et tu as dit des choses tout à fait intéressantes de ce point de vue-là, puisqu'il faut mettre en rapport cette Uneigentlichkeit, donc cette inauthenticité, avec le fait que le Dasein se perd dans le On, se disperse, que le Dasein n'est pas chez lui, etc. Et donc il y a un certain nombre de concepts qu'il faut mobiliser si on veut croire. Et puis je dirais, il faut les comprendre même à partir de sa propre entre guillemets expérience. Que signifie pour moi exister authentiquement très précisément? Il me semble qu'il y a une difficulté que tu soulignes d'une certaine manière, c'est que l'appel de la conscience, donc Gavison, n'a rien à voir avec la morale. Tu l'as dit d'ailleurs, ce Gavison n'est pas la conscience morale. C'est plus une conscience qui est par-delà bien et mal, justement. Et Heidegger souvent souligne que sa perspective n'est pas une perspective morale ou éthique. Et donc là, vraiment là, il tranche aussi bien avec Saint-Augustin qu'avec Saint-Paul, parce que là, il y a un geste très fort. Et donc, il s'agit de comprendre en quoi consiste cet appel qui est très problématique, puisque cet appel, il est vide, dit Heidegger. Il n'y a pas de loi. C'est pas du tout comme chez Saint-Paul où il y a les commandements de Dieu. Là, moi, ça m'a toujours un peu embarrassé, ce Gavison, parce que c'est une conscience qui m'appelle à l'authenticité, mais c'est un appel qui est vide au sens où il n'y a aucune loi, aucun contenu. C'est, alors comme tu l'as dit, cet appel, c'est un changement d'attitude, c'est une autre possibilité de se rapporter, et alors là je suis d'accord avec toi, de se rapporter aux choses, aux étangs intramontains. Il ne s'agit pas de se couper du reste du monde, pas du tout. Et donc là, moi j'ai une difficulté de méthode. Hein. Je ne sais pas si je parle beaucoup, peut-être un peu trop, mais il y a une difficulté de méthode. Je ne suis pas sûr que parfois l'érudition éclaire toujours bien. Il me semble que l'érudition parfois, au contraire, occulte. Occulte la signification, je veux dire, très première du texte de Heidegger, qui consiste à comprendre mais qu'est-ce que c'est que cette authenticité ou cet être en propre. Vas-y, je te laisse la parole parce que je ne veux pas.
Merci beaucoup pour ces questions et ces remarques. Alors d'abord sur la question de l'avoir soi-même et de l'Eigentlichkeit. Si justement moi je préfère traduire Eigentlichkeit, alors bon, par propriété ou être en propre. Mais justement parce qu'il me semble que et de ce point de vue la traduction par authenticité. Si elle marche aussi parce qu'il y a l'idée de faire la vérité sur soi, donc ce serait plutôt ça que rendre compte de l'identité. Mais il me semble qu'on perd l'idée de propre justement dans l'Eigentlichkeit, et donc on perd un peu de vue de ce point de vue que justement l'Eigentlichkeit c'est l'appropriation de soi, et donc il est bien question d'avoir, en fait la question c'est qu'est-ce qui m'appartient. Et donc, de ce point de vue, je dirais que c'est vrai que dans Être et Temps, il y a moins les expressions de Gisette Haben, mais il y a toujours la question de l'appropriation et donc de l'avoir. Donc, c'est vraiment la question directrice de Heidegger, c'est qu'est-ce qui m'est propre au sens de qu'est-ce que j'ai vraiment. Voilà, et c'est pour ça que…
Est-ce que, pardon, je peux me permettre de t'interrompre,
Est-ce que il ne faudrait pas privilégier, justement, avec cette problématique de l'Eigentlichkeit, privilégier la question de la Selbstheit, c'est-à-dire de l'être-soi. De telle sorte que le sich selbst haben me semble, dans Einstein, le être, le, donc alors je ne sais pas comment traduire d'ailleurs le sich selbst haben, c'est pas facile, hein, peut-être se posséder soi-même, pour que tout le monde comprenne bien, c'est peut-être le plus simple, hein, oui. Se posséder soi-même. Il me semble que cette thématique laisse la place à la Selbstheit et à l'être-soi. Et là, en fait, ma référence, ce serait Claude Romano, qui a écrit un gros livre qui a été publié l'année dernière, en 2019, sur être soi-même, avec tout un chapitre justement sur l'Eigentlichkeit et la Uneigentlichkeit. Et donc voilà, ce serait peut-être, c'est une hypothèse que je te propose, hein. C'est, il me semble que dans Einstein, la question c'est plus celle de l'être soi, et donc de la Selbstheit, que celle de se posséder soi-même.
Oui, d'accord, ben merci pour cette référence. Mais après, mais c'est peut-être un biais que j'ai, puisque je travaille justement sur la question de l'appropriation, etc.
Oui.
Mais dans le traitement aussi, il présente justement le soi, enfin, il parle comme être soi, c'est-à-dire se maintenir. Donc, justement, ça rejoint ce que j'ai voulu thématiser avec la tenue.
Et oui, donc, la tenue.
Ouais. Et donc, l'avoir comme l'être soi, comme un vouloir avoir conscience, qui est aussi un avoir conscience. Enfin, mais bon, en tout cas, merci pour cette remarque sur le soi. Oui.
Pardon. Non, vas-y.
Non, juste après pour conclure par rapport à tes autres remarques. Ben oui, alors là, c'est peut-être un biais méthodologique que j'ai, hein, mais c'est vrai que voilà, ce que j'essaie de faire même en général, c'est de retrouver un peu le sous-texte d'être étant. Mais parce qu'il me semble que, mais c'est peut-être moi, sinon en fait je ne comprends pas être étant. Voilà. Mais donc, en fait, pour comprendre la logique en fait, de la pensée heideggerienne, il me semble qu'on peut le faire en se reportant à ses cours. Et on voit qu'en fait, tous ces concepts sont extrêmement chargés parce qu'il les tire d'Aristote à une certaine lecture, évidemment. Mais il me semble même que c'est sa perspective, c'est-à-dire qu'il dit être proprement, c'est se projeter tout en se retenant, mais ça vaut aussi pour la pensée en général, c'est-à-dire qu'il pense après Aristote, après Augustin, etc. Il ne peut pas penser sans reprendre ce qui a été pensé. Et après, en essayant d'atteindre le propre, ce qu'il y a de propre chez chaque auteur. Mais après, évidemment, je suis d'accord pour dire que c'est évidemment pas un décalque de la pensée d'Augustin Coll, qui est dans toute perspective morale, etc. Mais que quand il parle de Gavison, il ne peut pas ne pas avoir en vue la conscience théologique. D'ailleurs, il le dit, il prend ses distances d'une certaine mesure, mais ça sort pas de. Il n'a pas inventé. Ouais.
Moi, alors, évidemment, ce qui m'intéresse chez Heidegger, c'est la rupture. Et il me semble que s'il est si important à Heidegger, c'est que justement, il introduit dans l'histoire de la pensée occidentale une véritable rupture. Alors, c'est pour ça que je suis toujours un petit peu réticent, mais je comprends très bien.
C'est un bien méthodologique.
Les concepts ne sont pas. Enfin, ils tombent pas du ciel. Et donc, ils ont une histoire. Ça, c'est très important de rappeler cette histoire. Et justement, pour reprendre l'exemple du Gavison, ce qui me frappe, c'est que Heidegger a parfaitement conscience de la lourde histoire de ce concept dans la pensée occidentale. Et en même temps, il tente véritablement de lui donner un sens nouveau, qui est d'ailleurs un peu qui est difficile à saisir. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une conscience qui m'appelle, mais qui m'appelle sans que cet appel ait de contenu. C'est quand même très, très étrange. Pour ma part, c'est plus... J'essaie plutôt de saisir à partir même de ma propre expérience. Mais les deux se complètent, hein, c'est pas du tout... Je ne peux pas du tout dire qu'il ne faut pas faire d'érudition ou quoi de généalogie des concepts, parce que ce serait dommage. Hein. Mais il me semble qu'il y a un danger, c'est donc d'atténuer la rupture qu'opère Heidegger. Mais peut-être qu'on peut laisser la parole à d'autres, parce que là, on monopolise.
oui, je comprends très bien.
Merci. De toute façon, oui, on peut demander si je voulais peut-être demander aussi à Alexis s'il avait une question, comme il est co-organisateur, je vais lui demander. Alexis.
Je n'ai pas spécifiquement de questions. L'exposé était vraiment très riche et très clair, donc il a pu être encore clarifié à nouveau avec les questions de Philippe Cabestan. Donc j'ai pas de questions. Pas de questions à ce stade pour moi. Donc, si d'autres auditeurs, auditrices ont des questions, qu'ils se manifestent ou qu'elles se manifestent.
Ah, moi, j'ai une petite question, alors, une petite question en a, ou deux en attendant, mais c'est assez, on va dire, frustre comme question, mais je voulais avoir un peu ton avis. Du coup, tu nous fais bien comprendre que, justement, quand le design ça en propre, il ne se sort pas du monde. Et il a toujours rapport avec les étangs intramondains, son comment change, et là, en particulier, il a ce rapport à l'étang intramondain comme temporel, fugace, tu as dit. Et donc, il prend une certaine distance, on pourrait dire, vis-à-vis de l'affairement dans lequel il se trouve dans l'existence impropre. Mais est-ce que tu pourrais, je veux dire, un peu préciser ce rapport à... je veux dire, à l'étang intramondain, est-ce qu'on pourrait aussi penser que, en dehors des rapports d'ustensilité en particulier, est-ce qu'on pourrait brancher là-dessus toute la thématique du laisser-être de l'étang, et peut-être de même en particulier avec autrui, de la sollicitude devançante? Est-ce qu'il y a, ça fait cet avoir-être pour toi, enfin, ou pour Heidegger, selon toi? Voilà, ça serait ma première question. Et la deuxième, qui est un peu plus massive et en même temps plus suggestive, c'est que j'interrogeais parce que le titre de ta thèse ça s'appelle « Le cœur du design ». Et est-ce que cette notion de cœur intervient, chez Heidegger, dans cette notion d'avoir soi-même, quoi. Voilà.
La notion de cœur, pardon.
Oui, la notion de cœur, oui, oui.
Alors, merci. Merci pour ces deux questions. Alors, pour la première, oui, je suis absolument d'accord. J'en ai parlé un peu avec le laisser habiter, mais justement, se rapporter proprement aux états intramondains, ça veut dire laisser les phénomènes apparaître. C'est même assez difficile à penser, parce qu'il dit, en fait, il utilise le verbe lassen en allemand, et ça veut dire à la fois laisser et faire. Rien n'apparaît sans le design, mais en même temps, faire apparaître pour le design, c'est-à-dire laisser les étangs se montrer eux-mêmes. Voilà. Donc c'est une projection, mais qui laisse le monde apparaître. Voilà. Et après, par rapport à la deuxième question, oui, en fait, ce que... là, j'en ai pas parlé, mais ce que j'essaie parce que j'ai essayé de montrer dans la thèse, c'est que justement le concept, le motif, plutôt que c'est pas vraiment un concept, mais le motif du cœur, en fait, c'est ça donne à penser l'ipséité que Heidegger a en vue. C'est-à-dire pourquoi ? Parce que le cœur, ce que j'ai essayé de montrer, ça donne à penser l'idée d'un jeu qui n'est pas une personne, qui n'est pas quelque chose de subsistant qui demeure. Mais c'est le jeu comme le cœur, c'est le plus intime, donc c'est la recherche de ce que je suis en propre. Mais en même temps, ce rapport à soi n'a absolument pas le sens d'une maîtrise, puisque, comme je l'ai dit un peu là, la voix de la conscience, elle apparaît étrangère, même elle est étrangère dans une certaine mesure. Donc c'est l'idée que l'action pour accéder à son propre, ben, il faut se détruire dans une certaine manière, c'est-à-dire s'approprier tout en se détruisant. Et ce que j'essaie de montrer, c'est que que c'est ce que donne à penser d'une certaine manière le concept de cœur chez Maître Eckhart et chez Paul et Augustin. Heidegger fait référence par exemple au cœur inquiet, c'est ça qui l'intéresse, c'est le cœur inquiet chez Augustin. Le cœur, c'est le lieu du rapport à Dieu, et donc, lu par Heidegger, c'est le lieu du rapport à ce que nous sommes en propre. Voilà. Et puis, je veux dire autre chose. Oui, non, et là, ça, ce que j'ai pas beaucoup développé dans ma thèse, que j'ai voulu développer un peu plus aujourd'hui, c'est que le cœur aussi, c'est la question du le motif du cœur, il est intimement lié à la question de l'habitation, justement, parce que c'est le lieu de l'habitation de Dieu. Et voilà, et il me semble que cette notion d'habitat aussi chez Heidegger, elle provient de. Elle, j'essaie de retracer son origine. Et donc là, ce que je voulais montrer aujourd'hui, c'est en partie chez Aristote, mais aussi avec l'idée de l'opposition oikos divine, oikos terrestre chez Paul. Mais justement, là où Heidegger rompt avec Paul, c'est que l'oikos divine, c'est pas autre chose, c'est pas un habitat éternel opposé à l'habitation terrestre. Il s'agit d'habiter autrement ici, quoi. Voilà.
Oui, donc on voit quand même les ruptures aussi de Heidegger avec justement ses prédécesseurs, quoi. Cette situation, elle met pas tout à plat et elle met pas.
Oui, Aristote comme Paul et Augustin, ils marquent toujours leur caractère impropre.
Très bien, oui, merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes ont des questions peut-être dans les auditeurs sur le chat ou en audio? Vraiment, pour l'instant, ça reste assez silencieux. Je ne sais pas si, Philippe, tu voulais encore intervenir.
Oui, je veux bien, oui. Il y a une question qui m'intéresse beaucoup, c'est celle de la Unheimlichkeit. Et j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Mathieu à propos donc, de ce Heim qui est foyer et le rapprochement. Là, ce qui me semble discutable, c'est d'aller chercher chez Freud des éclaircissements. Je pense pas que Freud éclaire beaucoup la question, parce qu'il a sa propre problématique avec l'inconscient et il me semble pas, même si effectivement Freud introduit ce concept au début du siècle, tu as dit en 1919 ou 16,
je crois.
Avec le texte célèbre sur l'inquiétante étrangeté. Alors que chez Heidegger, ce qui me semble intéressant, c'est l'idée que le Dasein n'est pas chez lui. C'est que être au monde, ce n'est pas être chez soi. Et ça, je trouve ça une idée très intéressante qui peut se présenter aussi de manière très vulgaire, parce que ça, j'aime bien aussi cette forme de vulgarisation, en disant, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Et peut-être que ça éclaire aussi la nudité du Dasein. Cette nudité au sens où il est jeté bien sûr au monde parmi les étants intramondains, mais il est nu au sens où il ne comprend pas ce qu'il fait là. Il n'y a pas de sens prédéterminé de son être au monde, de son être jeté. Et je crois que ça, c'est vraiment une dimension intéressante. Alors évidemment, l'Unheimlichkeit ne renvoie pas à l'idée qu'il y aurait un lieu propre du Dasein. Hein, là, il n'y a pas pour Heidegger d'oikos, hein, de lieu où il me semble-t-il. Hein, il me semble que là, il y a une grande différence, c'est que le Dasein est jeté au monde sans être chez lui, mais il n'y a pas de chez soi, me semble-t-il, pour Heidegger. Je te laisse répondre.
Oui, alors merci beaucoup à nouveau. Alors oui, pour Freud, après je l'ai utilisé, en fait ce qui m'intéressait chez lui, c'est qu'il avait fait le travail d'une certaine manière, puisqu'il cite des dictionnaires où il explique la signification de Unheimlichkeit. Mais après, je suis tout à fait d'accord que le lien n'a pas à être approfondi, que c'est deux univers complètement différents. Après, oui... Je suis d'accord aussi pour le pour dire qu'il n'y a pas d'oikos véritable du Dasein, puisqu'il habite dans le monde et il ne peut habiter que dans le monde parmi les étants intramondains, donc il est toujours en tant qu'être jeté. Mais voilà, après il me semble que on peut distinguer quand même deux manières d'habiter, puisque justement même le Dasein, tout l'enjeu pour lui, c'est d'être son là, c'est-à-dire de savoir ce que veut dire habiter.
Oui. Ben d'accord. Donc,
ouais. Mais qu'il n'y a pas de lieu définitif au sens où il n'y a pas un lieu éternel de cause où je serai proprement ce que je suis parce que je suis toujours jeté.
Voilà, exactement. On est bien d'accord. L'être jeté est indépassable.
Oui.
Et von Haidt ne peut pas donner lieu, comme dans le christianisme par exemple, à un salut au sens de la soteriologie. Chrétien, on est bien d'accord.
Oui, mais même je dirais que en fait, habiter proprement, trouver son là, c'est assumer qu'il n'y a pas d'habitat véritable. Voilà. Parce que c'est assumer son être jeté.
Et là, on comprend bien ce qu'est l'Eigensicherheit. C'est que justement, c'est au fond la conscience d'être jeté. Et c'est exister comme un être jeté qui sait que, au fond, tout ce qu'on peut dire, ce n'est jamais que des significations, des récits, des mythes, des élaborations conceptuelles et philosophiques pour donner sens à ce qui, au départ, n'en a pas. C'est l'être jeté. Et ça me semble une dimension vraiment importante de, pour comprendre l'authenticité ou l'être en propre de Heidegger.
Oui, merci pour cet échange. Je ne sais pas s'il y a encore... non, je ne sais pas, Alexis, si tu voulais intervenir. Sinon on peut s'en tenir là, mais c'était déjà très comme ça. Non, pas de, je regarde, mais apparemment, non, il n'y a pas d'autres questions. Ben, écoute, je te remercie beaucoup, Mathieu, encore une fois, pour ce bel exposé, là, très, très fourni, et voilà. Donc, on va, ça nous donne du grain à moudre, voilà.
Ben, merci à vous, Aurélien, Alexis et Philippe. Merci
beaucoup. Voilà, merci beaucoup à toi, Philippe, aussi pour.
D'accord. Ben, écoute, moi, je vais aller boire un petit whisky, là, parce que Je vous encourage à l'alcoolisme. Allez, au revoir. Bonne soirée. Et puis
oui, bonne soirée.
Profitez. Au revoir. Avec deux sports, un bon whisky.
À très bientôt.
À bientôt.
Au revoir, donc, merci beaucoup encore. Et puis, j'espère que la prochaine fois, oui, il y aura donc Iris 12 ans qui interviendra le mars, hein, voilà la dernière annonce que je voulais faire, mais donc j'espère vous retrouver aussi nombreux que ce soir. Voilà, merci beaucoup.
Merci à tous.
Au revoir.
Au revoir.